VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 18h30 temps universel, le monde aujourd'hui édition du vendredi 3 novembre 2017 en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir au Nigeria, les rebelles des vengeurs du delta du Niger ont annoncé la fin du cessez-le-feu. Fermeture de 14 établissements privés de santé au Niger. En Syrie, le groupe État islamique perd Deir ez-Zor, sa dernière grande ville. Donald Trump a commencé sa première tournée dans 5 pays asiatiques. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Blanche Sanou pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Le point sur la première opération du G5 Sahel. Une colonne de pick-up maliens armés progresse lentement dans la zone frontalière avec le Burkina Faso et le Niger. Une vingtaine de blindés de la force française Barkhane assurent la sécurité dans le convoi. Au Nigeria, le groupe vengeur du delta du Niger a déclaré la fin du cessez-le-feu dans la région du sud-est riche en pétrole. On fait le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le cessez-le-feu dans le delta du Niger est officiellement terminé, a déclaré le groupe vengeur du delta du Niger sur son site web. Les militants veulent une plus grande part des richesses pétrolières dans le sud-est du Nigeria. Nous pouvons vous assurer qu'à chaque installation dans notre région, vous sentirez la chaleur de la colère des vengeurs du delta du Niger, menace ce groupe. Après avoir mené des attaques récurrentes dans le sud-est du pays, les vengeurs du delta du Niger avaient annoncé la fin des hostilités en août 2016. Les attaques contre les installations pétrolières dans le delta du Niger ont fait chuter la production du pétrole à près d'un million de barils par jour, contre 2,2 millions initialement. Le Nigeria s'appuie sur les ventes de pétrole brut pour 2/3 des recettes de l'État et la plupart de ses devises.
Au Nigeria toujours, Sambo Dasuki, un ancien conseiller à la sécurité nationale, a nié aujourd'hui, devant la justice, avoir détourné des fonds destinés à lutter contre le groupe djihadiste Boko Haram pour financer la campagne électorale de l'ex-président Goodluck Jonathan en 2015. Le gouvernement nigérien a ordonné la fermeture de 14 établissements privés de santé, qualifiant la situation d'alarmante. Michel Joseph nous dit pourquoi.
Idi Iliassou, ministre de la Santé, a expliqué que ces sanctions extrêmes ont été prises après des mois de contrôle dans des cliniques, cabinets de soins, pharmacies et maternités du pays, principalement à Niamey. Il a précisé que la réglementation, la législation et les procédures d'ouverture de ces établissements ne sont pas respectées. Monsieur Iliassou a ajouté que de ces inspections, il découle 36 notifications, dont 14 fermetures immédiates et 22 mises en demeure. Le ministre a également déploré les tarifications anarchiques dans certaines cliniques privées et les pharmacies. En attendant les nouveaux tarifs, il a sommé les propriétaires des cliniques à désormais afficher clairement leurs prix pour que les patients puissent en prendre connaissance à l'avance. D'après le ministre, pour escroquer les malades, des cliniques et laboratoires prescrivent des faux examens très coûteux, souvent abusifs et de qualité douteuse. En janvier, le ministre de la Santé avait déjà fermé une importante clinique et ses deux annexes qui pratiquaient depuis des années à Niamey sans aucune autorisation.
Et nous restons au Niger. Une nouvelle commission électorale nationale indépendante a été installée à Niamey pour la présidentielle de 2021. C'est ce qu'a annoncé la radio nigérienne. La nouvelle CENI, composée des représentants de la coalition au pouvoir, de l'opposition et de la société civile, est dirigée par l'avocat Issaka Souna, qui avait déjà présidé la commission en 1999. L'actuel président Mahamadou Issoufou a d'ores et déjà annoncé qu'il ne sera pas candidat. Après la fusillade de Marrakech, la police marocaine annonce l'arrestation de 6 personnes à Casablanca pour leur implication présumée dans l'attaque de jeudi soir qui a fait un mort et 2 blessés. 2 individus cagoulés, souvenez-vous, ont tiré hier soir sur un homme dans un café à Marrakech. Les autorités privilégient la piste du règlement de compte. Des centaines de policiers ont manifesté à travers la Tunisie. C'est au lendemain du décès d'un des leurs, poignardé non loin du Parlement. Ils réclament donc l'adoption d'un projet de loi très controversé visant à protéger les forces de sécurité. Tunisie toujours, la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle s'inquiète d'un possible recul de la liberté d'expression au sein des médias publics. Le président de cette instance affirme que la télévision donne de plus en plus souvent la parole à des gens d'un seul parti à l'approche des élections municipales prévues en mars. Selon lui, il faut que le gouvernement sache que l'ancien régime est fini et qu'il doit s'efforcer de mettre en place un véritable programme de réforme basé sur les principes de la liberté d'expression et de l'indépendance des médias publics. Une citoyenne américaine arrêtée au Zimbabwe, travaillant pour une chaîne de télévision privée, on lui reproche d'avoir comparé le président Mugabe à un lutin dont la femme et le fils ont acheté une Rolls-Royce.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la justice espagnole devait demander aujourd'hui à la Belgique de lui livrer Carles Puigdemont, le président déchu de l'exécutif catalan. Un mandat d'arrêt européen devrait être émis dans la journée par une juge madrilène, mesure prise au lendemain de l'incarcération de membres de son gouvernement destitué, qui a provoqué la colère des indépendantistes catalans déterminés à répondre dans les urnes. Cela intervient une semaine après la proclamation unilatérale d'une république de Catalogne, aussitôt suivie d'une mise sous tutelle de la région par Madrid. Les forces irakiennes ont repris un important poste frontière reliant l'Irak à la Syrie. L'étau se resserre sur le groupe État islamique qui perd de plus en plus de terrain. Des précisions, Anastasie Tudiech.
Cette avancée intervient au moment où les forces irakiennes progressent dans Al-Qaïm, dernière poche djihadiste en Irak. Selon un officier irakien, les djihadistes avaient déserté le poste frontière en direction de la Syrie. Toujours selon lui, plusieurs d'entre eux ont été tués par ses troupes. Cette percée intervient après la reprise par l'armée syrienne de Deir ez-Zor en Syrie. En 2014, le groupe État islamique s'était emparé, après une offensive fulgurante, de près d'un tiers du territoire irakien et d'une partie de la Syrie. Depuis, les troupes irakiennes, appuyées par des unités paramilitaires et surtout par les frappes aériennes de la coalition menée par les États-Unis, ont repris 95% de ces zones. Il ne leur reste plus que les environs d'Al-Qaïm, le long de la frontière avec la Syrie, notamment la localité de Rawa voisine, à reprendre pour reconquérir les derniers pans de territoire du califat autoproclamé d'Abou Bakr al-Baghdadi.
Iran, 8 militaires ont été tués lors d'affrontements avec des groupes qualifiés de terroristes à la frontière avec la Turquie. C'est ce que rapporte l'agence officielle IRNA. Ces affrontements ont eu lieu dans le comté de Chaldoran, dans l'extrême nord-ouest du pays. Il faut dire que les affrontements sont fréquents entre les forces de l'ordre iraniennes et des groupes armés séparatistes ou djihadistes le long de la frontière occidentale du pays avec la Turquie et l'Irak. La procureure de la Cour pénale internationale va demander l'autorisation au juge d'ouvrir une enquête au sujet de crimes de guerre présumés commis dans le cadre du conflit armé en Afghanistan. J'expliquerai au juge qu'il existe une base raisonnable permettant de croire que ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité ont été commis dans le cadre du conflit afghan, a déclaré Fatou Bensouda. Il résulte de l'examen préliminaire que l'armée américaine et la CIA pourraient avoir commis des crimes de guerre dans ce pays, particulièrement en 2003 et 2004. Le président américain a commencé aujourd'hui une longue tournée en Asie. Cette tournée intervient dans un climat de forte tension avec la Corée du Nord, les précisions de John Lindon.
Donald Trump se rendra dans 5 pays, Japon, Corée du Sud, Chine, Vietnam et Philippines. Avant son départ, il a déclaré que ce voyage sera couronné de succès. Nous allons parler d'échanges commerciaux et nous allons parler, bien sûr, de la Corée du Nord. Il y a beaucoup de bonne volonté sur ce dossier, a-t-il ajouté. Monsieur Trump a annoncé qu'il resterait finalement un jour de plus qu'initialement prévu aux Philippines pour participer au sommet de l'Asie orientale, prévu le 14 novembre. L'un des objectifs de ce déplacement le plus long d'un président américain dans la région depuis un quart de siècle est de renforcer la détermination pour isoler le régime nord-coréen. Le ton que le président américain va adopter avec son homologue chinois Xi Jinping, tout juste reconduit pour 5 ans à la tête du pays le plus peuplé du monde, sera scruté avec attention. Après avoir promis en campagne de s'attaquer avec force à l'excédent commercial chinois, Trump a jusqu'ici fait preuve d'une relative prudence dans ce domaine.
Le Tadjikistan interdit de pratique tous les imams formés à l'étranger. Dernière mesure prise par les autorités de ce pays d'Asie centrale, majoritairement musulman, pour lutter contre la radicalisation. Le comité pour les affaires religieuses a initié une procédure de licenciement de tous les imams de mosquées qui avaient reçu leur formation religieuse à l'étranger, a déclaré à l'AFP par téléphone un membre de ce comité auprès du gouvernement tadjik. Voilà pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Blanche Sanou, la Minute Éco.
La Côte d'Ivoire a inauguré le plus grand barrage hydroélectrique de l'Afrique de l'Ouest dans la commune de Soubré. D'un coût total de 331 milliards de francs CFA, les travaux de ce barrage ont duré 50 mois et offrent une capacité de 275 mégawatts. Il permettra de relever le niveau de l'hydroélectricité, de rééquilibrer le mix énergétique et de faire face à l'évolution croissante de la consommation nationale à moindre coût. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est dit fier et heureux de la réalisation de ce barrage qui était inscrit dans son programme. Le gouvernement mauritanien a fixé le budget de l'État à 518,4 milliards d'ougias, soit 1,44 milliard de dollars US pour l'année 2018. Ce qui représente une augmentation de 6,4% par rapport à l'année précédente. Cette progression est due notamment à une amélioration des performances de l'économie mauritanienne, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Ould-Diaye, au cours d'une conférence de presse. En Éthiopie, 231 millions de dollars des recettes ont été réalisées grâce à des sociétés locales et internationales engagées dans l'exportation de métaux précieux sur une période d'un an. Selon les précisions de Bacha Fayi, directeur des relations publiques du ministère des Mines et du Gaz, les recettes étaient inférieures à l'objectif fixé pour l'année en raison notamment de la baisse du prix de l'or.
On enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Tour du Faso en cyclisme.
La 8e étape, Bobo du Lasso d'Edougou, remportée par l'Allemand Benjamin Stoder. Il franchit en premier la ligne au sprint. Le Marocain Salaheddine Mraouni reprend le maillot jaune de leader. D'Edougou, Koudougou, c'est demain la 9e étape au programme pour les coureurs de ce Tour du Faso 2017.
Foot, J-1 avant la finale retour de la Ligue africaine des champions.
Le Wydad Casablanca entrevoit sa deuxième Ligue des champions après 92 avant d'affronter demain au stade Mohamed V Al Ahly qui avait été accroché à l'aller en Égypte un but partout. Derrière les rouges et blancs, c'est tout un pays qui espère un trophée qui lui échappe depuis 1999 et le sacre du Raja Casablanca, le rival du Wydad. Un score nul et vierge permettrait aux Casablancais de remporter ce titre. Les près de 46 000 billets du stade ont tous trouvé preneur. Parmi eux, 1000 supporters égyptiens qui sont attendus dans une ambiance qui s'annonce très chaude. 10 000 policiers sont mobilisés pour l'occasion.
L'Europa League en Europe.
Tenu en échec par l'Étoile Rouge de Belgrade, Arsenal a tout de même validé son billet pour les 16e de finale de cette Europa League 0-0. Dans l'autre match du groupe, Cologne a battu le Bate Borisov 5-2. Le Milan AC est resté muet sur la pelouse de l'AEK Athènes 0-0. Dans l'autre match du groupe, l'Austria de Vienne a facilement dominé Rijeka 4-1. Everton battu à Lyon 3-0. Et puis Marseille qui s'est incliné sur la pelouse de Guimarães au Portugal. L'événement de la soirée a bien évidemment été l'expulsion de Patrice Evra avant la rencontre.
Evra qui connaîtra son sort le 10 novembre prochain.
Et oui, l'UEFA qui doit rendre sa décision disciplinaire concernant le défenseur de l'OM exclu pour un violent coup de pied contre un supporter avant la rencontre. Le joueur de 36 ans risque une lourde sanction pour un geste similaire en 95 dans le championnat anglais. L'attaquant de Manchester United, Eric Cantona, avait été suspendu 9 mois par la fédération anglaise.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Pour leur retrouvaille 5 mois après la finale de la conférence Ouest, Golden State a encore laminé San Antonio 112-92, malgré une entrée en matière laborieuse. Dans l'autre rencontre de la soirée, Portland est venu à bout des Lakers 113-110.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la générale des carrières et des mines, ou GECAMINE, a pu générer plus d'$1 milliard à partir de transactions de cuivre et de cobalt entre 2011 et 2014. Mais les deux tiers de ces recettes, soit $750 millions, ne peuvent pas être retracés dans les comptes de l'entreprise étatique. Le Centre Carter a publié un rapport intitulé « Affaires d'État ». Idriss Fall a joint Elisabeth Cassens du Centre Carter à Bruxelles.
Dans ce rapport sur lequel nous avons travaillé pendant de nombreuses années, l'idée à la base c'était combien d'argent la GECAMINE récolte dans le secteur du cuivre au Congo. Il s'agit de pas mal d'argent, d'environ $262 millions par an en moyenne. Et donc nous avons essayé de comprendre ce qui se passe avec cet argent entre 2011 et 2014 sur les $1.1 milliard auxquels la GECAMINE avait droit. On n'arrive pas à retracer $750 millions.
Aucune trace. Est-ce que cet argent n'est pas allé, vous êtes sûr, dans les caisses de l'État congolais?
L'argent de la GECAMINE, de la société étatique, ne doit pas forcément aller au trésor public. Il ne s'agit que des taxes normales et des dividendes qui devraient aller au trésor public. C'est prévu ainsi dans la loi congolaise. La question qu'on s'est plutôt posée, c'est de savoir ce qui est fait de cet argent au lieu d'aller au trésor public. La rhétorique de la GECAMINE, c'est de dire que cet argent-là est réinvesti pour la relance de la production de la GECAMINE elle-même. Elle produisait beaucoup de cuivre dans les années 70-80. Et donc l'idée, selon elle, c'est de réinvestir cet argent qu'elle reçoit dans sa production. Alors on a mis cette théorie à l'épreuve et on constate que les résultats sont très décevants.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que même sous Mobutu, c'était pareil. Hein.
C'est pas tout à fait pareil, dans le sens où sous Mobutu, l'entreprise étatique, donc elle produisait énormément de cuivre, elle avait un quasi-monopole de la production au Zaïre de l'époque, alors qu'à cette époque-ci, ce sont plutôt les investisseurs privés qui produisent, les investisseurs qui se trouvent en partenariat avec la GECAMINE. La production de la GECAMINE elle-même est devenue beaucoup plus réduite. Les recettes qu'elle récolte proviennent plutôt de ses partenariats que de sa propre production. Ses partenariats, qu'est-ce que ça génère et comment est-ce qu'elle alloue cet argent? C'est là que les questions se posent. Quand on entend que l'idée c'est de réinvestir dans la production mais que les résultats sont décevants, ça pousse évidemment à la question qu'est-ce qui se passe?
Beaucoup de questions, mais quelle réponse? Qu'est-ce que vous proposez comme solution?
Cette entreprise étatique aujourd'hui est très peu contrôlée. Donc il est très difficile de savoir ce qui se passe avec les contrats qu'elle signe, avec l'argent qu'elle récolte, avec l'argent qu'elle dépense, non seulement pour le public, mais même pour le Parlement congolais, même pour le gouvernement congolais. Très peu de membres du gouvernement, y compris le ministre des Mines, y compris même la primature, ont du mal à voir ce qui se passe dans cette entreprise. Il faudrait que les institutions congolaises, dans un premier temps, à ressaisir contrôle de ce qui se passe au sein de cette entreprise, surtout pour les plus grands contrats. Il y a eu certains contrats dont on sait qu'ils ont été signés 2016-2017, qui auraient pu générer jusqu'à $1 billion, rien que pour trois contrats. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, de pousser à la publication de ces contrats, à la publication des états financiers de cette entreprise, qui récolte pas mal d'argent et dont il est difficile de savoir comment elle le dépense, c'est un regain de contrôle sur ce qui se passe au sein de cette entreprise, notamment au niveau financier.
Voilà, c'était Elisabeth Cassens du Centre Carter à Bruxelles.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Burkina Faso, le rendez-vous est pris pour demain. Une vingtaine d'organisations de la société civile comptent organiser une marche pour dénoncer la lenteur des dossiers judiciaires et l'impunité dans le pays. Bagessi Koura joint à Ouagadougou Ali Sanou, secrétaire général du mouvement burkinabé et des droits humains.
Depuis maintenant 3 ans que l'insurrection populaire a eu lieu dans notre pays, plus de 2 ans après la tentative de putsch de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, nous marchons, nous exigeons qu'il y ait la vérité et la justice pour les personnes qui sont tombées au cours de ces événements, mais aussi pour tous les cas de crimes impunis dans notre pays.
Et pourtant, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Hein. À vos yeux, c'est trop lent ou c'est pas suffisant?
Vous savez, dans notre pays, pour les crimes politiques, il y a des procédures judiciaires qui datent de 30 ans. Pour nous, ce n'est pas le fait que les procédures judiciaires soient en cours qui constitue une garantie d'aboutissement des procédures en cours. Donc, nous, notre marche de demain vise justement à exiger que pour une fois, les procédures judiciaires n'excèdent pas des délais raisonnables, ne durent pas de façon indéfinie, que les autorités politiques et judiciaires de notre pays puissent s'assumer, et ce d'autant plus que l'impunité est l'une des raisons quand même qui a prévalu à la chute du régime de Blaise Compaoré.
Alors à qui donc la faute? Est-ce seulement le système judiciaire ou vous mettez en cause aussi le gouvernement?
Nous pensons que prioritairement le gouvernement est responsable parce que au-delà des professions de foi qui nous sont balancées à longueur de journée sur l'indépendance de la justice, nous constatons des cas concrets d'inhibition du pouvoir politique dans la conduite de certaines affaires judiciaires. Lorsque vous prenez la levée du mandat d'arrêt international lancé contre James Soro, tout le monde le sait très bien que c'est une question pour laquelle le pouvoir a préféré une résolution diplomatique, a mis la pression sur la justice pour qu'elle ait son mandat d'arrêt. Lorsque vous prenez également des officiers de l'armée qui devraient répondre de certains faits lors du coup d'État manqué de septembre 2015, qui sont nommés comme ambassadeurs hors du pays, il est clair pour nous que le pouvoir politique met tout en œuvre pour que, justement, dans certains dossiers, il n'y ait pas la vérité et la justice. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida vit d'un exil doré au Canada. Pourtant, nous savons tous que ce monsieur a bénéficié d'une autorisation de sortie alors qu'il y avait des présomptions sur au moins des cas de détournement de deniers publics en ne l'ayant pas empêché de sortir. Donc, pour nous, l'autorité politique ne s'ingère de façon grossière dans certaines procédures judiciaires pour qu'elles n'aboutissent pas. Mais cela ne dédonne pas quand même certains magistrats de l'appareil judiciaire qui, malheureusement, sont réticents en tout cas à assurer de façon pleine et entière leur indépendance.
Ali Sanou, secrétaire général du mouvement burkinabé des droits humains.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, le 15 juillet dernier, lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football, 8 personnes, après de violentes échauffourées, ayant entraîné l'affaissement d'un pan de mur du stade Demba Diop de Dakar. Depuis, les autorités ont mis l'enceinte sous scellé. On fait point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Demba Diop est fonctionnel depuis 1963. À l'époque, il s'appelait Stade de l'Amitié. En 2017, il y a eu ce drame.
Le chroniqueur sportif Abdoulaye Diaw considère le stade Demba Diop comme une enceinte mythique. Cependant, il estime que sa fermeture est un mal nécessaire.
Demba Diop, c'est le berceau de l'organisation moderne de nos compétitions. Tous les Sénégalais se seraient retrouvés orphelins de Demba Diop si le stade était fermé. Mais il faut être réaliste. Fermé pourquoi? Pour cause de réhabilitation. Oui, il faudra retaper Demba Diop pour faire disparaître les images du drame du 15 juillet dernier.
Pour Hassane Diaye, promoteur de lutte avec frappe, cette longue indisponibilité du stade paralyse leurs activités.
C'est vrai que la fermeture était nécessaire vu la gravité des faits, mais ça commence à durer et ça devient très difficile pour nous. Nous, les promoteurs, y perdons beaucoup car on a investi des dizaines de millions de francs CFA pour nous retrouver dans une posture très inconfortable. D'un côté, les amateurs s'impatientent et de l'autre, l'éditeur nous donne des ultimatums alors que nous n'y sommes pour rien. La fermeture du stade n'est pas de notre faute.
L'inquiétude des promoteurs est légitime et la tenue de ces grandes affiches nécessaires, selon le chroniqueur de lutte Ngan Diagne.
Les promoteurs rencontrent des difficultés à cause des nombreux reports de combats et des contraintes que cela crée. Toutefois, la lutte n'est pas bloquée, même si les combats en suspens peuvent empêcher la tenue d'autres. Alors, il faut que ces combats aient lieu rapidement afin d'offrir des perspectives aux autres lutteurs, car il est important de souligner que les lutteurs qui doivent se faire face sont à des positions stratégiques dans l'arène. C'est un problème d'infrastructure et pour ces deux combats, ils peuvent se tenir au stade de Léopold Senghor.
Jacques Diop, conseiller technique au ministère des Sports, rassure les acteurs sportifs et annonce une solution pour la tenue des grandes affiches de la lutte avec frappe.
Nous avons déjà anticipé, parce que même dans le cadre de ce qu'on appelle par exemple l'arbitrage budgétaire, nous avons inscrit dans la lutte 2018 la réfection de ce stade-là. D'ici mi-janvier au plus tard, je pense que le stade pourrait accueillir d'autres activités sportives ou culturelles. Je pense que pour le football, il n'y a pas de problème. Maintenant, la lutte, peut-être il y a deux, trois grandes affiches. Ce sont des combats qui peuvent être abrités à l'époque de la seconde, dans la mesure où le ministre des Sports, M. Batarba, a même offert aux promoteurs la gratuité du stade. Maintenant, il ne reste qu'à respecter les cahiers de charges.
À Dakar, Sidina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Jour J pour le tout dernier iPhone chez Apple. L'iPhone 10 est mis sur les marchés aujourd'hui. Arzuma Compaoré, quelles sont les nouveautés auxquelles il faut s'attendre ?
Premièrement, l'originalité de l'iPhone 10, l'une des plus grandes originalités, c'est son écran Super Retina de 5 pouces 8, qui recouvre totalement l'ensemble de la surface du téléphone. C'est le premier écran de chez iPhone à utiliser la technologie OLED. OLED qui veut dire Organic Light Emitting Display. Elle permet d'afficher un contraste de 1 million pour 1 contre 1400 précédemment. Il n'y a plus de bouton Home. Désormais, pour déverrouiller l'iPhone 10, il va falloir faire glisser son doigt de bas vers le haut, tout simplement. La technologie de reconnaissance faciale, c'est peut-être la grande innovation de l'iPhone 10 cette fois-ci. Le nouvel iPhone intègre une technologie de reconnaissance faciale baptisée Face ID qui permet de débloquer le téléphone en utilisant le visage. Tout simplement. L'autre nouveauté, c'est la puce ultra puissante A11 Bionic qu'Apple présente comme la puce la plus puissante et la plus intelligente jamais vue sur un smartphone, dotée d'un système neuronal capable d'effectuer jusqu'à 600 milliards d'opérations à la seconde. Et enfin, bien évidemment, la caméra, une caméra très puissante avec une stabilisation optique intégrée qui permet justement au zoom d'être plus puissant et plus stable.
Et combien faut-il débourser pour avoir l'iPhone 10 ?
Alors, il va falloir débourser la coquette somme de $999, tout simplement pour la version de 64 gigabits ou environ $1200 pour celle de 256 gigabits.
Merci Arzuma Compaoré, notre collègue du service francophone VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
Termine cette émission en musique, c'est Layana, toi et moi. La fin de cette émission, donc, à la mise en onde de Michel Joseph, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.